Théologie biblique, Père Philippe, 8 mai 84, Saint-Joseph.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Au nom de l'Esprit Saint, Père de Dieu, dis-lui notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité de la pierre. Notre Dame est très heureuse. Nous avons donc essayé d'entrer dans ce troisième moment de la vie des patriarches, c'est-à-dire la troisième épreuve. L'épreuve d'Abraham, l'épreuve d'Isaac et l'épreuve de Jacob. Et les trois sont différentes et les trois doivent nous aider à comprendre comment Dieu veut sanctifier le cœur des pères. Puisque c'est la reprise par l'alliance, la reprise par le cœur des pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et on voit bien que la purification de Jacob est tout à fait différente des deux autres. C'est encore le père, si vous voulez, mais c'est aussi l'aspect de la charité fraternelle qui commence. C'est même très curieux de voir avec ça, avec le point de vue de Jacob. Cette purification de la charité fraternelle qui est particulièrement difficile. Quand un frère vous en veut à mort, c'est pas commode de lui pardonner. C'est la réconciliation. Hein. Ce serait le grand thème de la réconciliation. Et je crois que ce serait intéressant d'étudier de près chapitre 32, chapitre 33 de la Genèse pour comprendre comment Dieu va préparer le cœur de Jacob à cette réconciliation. C'est pas commode dans la réconciliation parce qu'on est deux. Quand il s'agit de Dieu seul, ça va encore. Hein. Parce qu'on sait que Dieu est toujours devant nous. Et que si on a un bon mouvement de pardon, on sait que Dieu nous a pardonné avant. Tandis que notre frère, on n'en est jamais sûr. Il peut avoir un peu de retard. Il n'est pas nécessairement au même rythme que nous. Et donc, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Et on sent très bien ce qu'il y a ça chez Jacob. Il ne sait pas qui va rencontrer. Il doit pardonner. Il doit prendre sa force auprès de Dieu. Parce que tout pardon à l'égard du prochain provient de l'amour de Dieu. Il n'y a que Dieu qui nous permet de pardonner. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Œil pour œil, dent pour dent. Hein, ça, c'est, on sait très bien. Ce n'est pas une loi naturelle, ça, mais c'est une réaction instinctive. Œil hein, pour œil, dent pour dent. Et Dieu veut qu'on dépasse cela. Et qu'on arrive à se servir même de la blessure qu'on a reçue de son frère pour être plus proche de lui. Alors c'est pour ça qu'on voit cette lutte, cette nuit-là, je reprends parce que je crois qu'il faut le reprendre à partir de là, cette nuit-là, 32, verset 23. Il se leva, prit ses deux femmes, ses deux esclaves et ses 11 enfants, et il passa le gué de Yabok. Il les prit. Il leur fit passer le torrent. Il fit passer aussi tout ce qui était à lui. Jacob resta seul. Il y a un combat seul avec Dieu. C'est pour ça qu'on a toujours considéré ce combat comme une préfiguration de l'agonie. C'est tout un aspect du mystère de l'agonie qui nous est révélé là. Tout ce qui est l'avoir, tout ce qui est des relations humaines, tout ça va disparaître. Il ne va plus y avoir que la dimension transcendantale, verticale. Jacob resta seul, un homme combattit avec lui jusqu'à la montée de l'aurore. Un homme. Mystère, hein, on ne précise pas. Combattit avec lui jusqu'à la montée de l'aurore. C'est très beau du reste, la montée de l'aurore. Hein. Ça se voit. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il toucha le creux de sa hanche. Et le creux de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il combattait avec lui. Mais le combat régulier, il n'arrive pas. Alors il faut quelque chose qui dépasse le combat et qui est cette espèce d'intelligence particulière de toucher la vulnérabilité de l'autre. Il le touche, la vulnérabilité, le creux de sa hanche. Et le creux de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il combattait avec lui. Ça, c'est en dehors du combat. Hein. C'est la connaissance. C'est tout à fait différent. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore est montée. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. Donc, il s'avoue vaincu. Il s'avoue relatif à l'autre. Comme Abraham demande la bénédiction de Melchisédek, Jacob demande la bénédiction de l'homme, de cet homme avec qui il a combattu toute la nuit. Je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. La bénédiction étant plus que tout. Bon, qu'est-ce que c'est que cette bénédiction ? C'est la conversion de son cœur. C'est ça la bénédiction. Il a combattu toute la nuit, il était égal avec l'autre, donc ce qui montre le courage de Jacob, c'est ça que ça montrait, n'est-ce pas ? C'est la générosité de Jacob dans la lutte. Et il ne peut être vaincu que par la connaissance plus grande que l'autre a de l'homme. Et la fragilité et la vulnérabilité de l'homme que l'autre a, il le touche au creux de la hanche. C'est point de vue de la philosophie du corps. Mais il y a la générosité de la lutte, ça c'est au niveau, et puis il touche au creux de la hanche. La connaissance, hein, c'est assez beau ça. La connaissance qui dépasse le point de vue de la générosité. Il bat l'autre par cette connaissance. Et Jacob, malgré cela, qu'il se met à être dans une attitude de plus grande fragilité, il n'a plus l'égalité vis-à-vis de lui, il le supplie dans son humilité, dans sa pauvreté, « Je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il dit, « Jacob. » Il dit alors, « On ne t'appellera plus du nom de Jacob, mais Israël. » Alors c'est ça qui est très important pour nous, parce que c'est le passage de l'individu à son rôle nouveau par rapport à tout Israël. Vous voyez qu'il y en a deux qui jouent un rôle particulier pour tout le peuple d'Israël. Abraham, Jacob. Isaac est entre les deux. Il est la petite victime immolée, Isaac. Hein, c'est très curieux, ça. C'est la victime. Tandis qu'au contraire, Abraham, c'est le père dans la foi, et Jacob, c'est Israël. C'est corps avec le peuple d'Israël. Il est Israël. C'est très curieux. C'est très intéressant, là aussi, de voir la différence entre Abraham et Israël. Abraham demeure le père, tandis que Jacob, c'est Israël. C'est la charité fraternelle qui fait ça. C'est le mystère de la charité fraternelle qui fait l'immanence parfaite. Une immanence divine, une immanence qui dépasse l'immanence humaine, mais qui fait l'immanence. Il est Israël. C'est tout à fait particulier. Jésus n'est pas l'Église. Marie est l'Église. Vous voyez la différence, hein ? Et Jacob, là, serait comme Marie. Je peux dire que Marie, c'est l'Église. Et on peut dire que Jacob, c'est Israël. Oui, tandis qu'Abraham, c'est le père. Donc il y a une transcendance. Alors on part de la transcendance d'Abraham pour arriver à cette immanence de Jacob. Il est Israël. On ne t'appellera plus du nom de Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Alors c'est ça Israël, hein, c'est celui qui a lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu l'as emporté. C'est l'espérance. C'est la victoire dans l'amour et dans la lutte. C'est l'espérance. Abraham, c'est la foi. Et Jacob, c'est l'espérance. C'est la victoire dans la lutte. Alors, vous voyez la différence, là encore, ce serait très beau à voir comme les vertus théologales, parce que c'est important. C'est quand même, ces hommes expriment pour nous une incarnation des vertus théologales. Abraham incarne pour nous la foi et Jacob l'espérance, ainsi que Jean-Baptiste et Jésus l'amour. C'est l'agneau de Dieu. Il y a Jésus qui incarne l'amour. Il est le fils bien-aimé du Père en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Vous voyez, donc on voit bien cela. Tandis que là, les deux préfigurations, l'Ancien Testament, c'est avant tout la foi et l'espérance. Hein. La Nouvelle Alliance, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui passe avant. Tandis que dans l'Ancien Testament, il y a bien foi, espérance et amour, c'est bien évident. Mais l'amour est toujours sous le conditionnement de la foi et de l'espérance, et donc ne dépasse pas la foi et l'espérance, si j'ose dire. Hein. Et je crois qu'on peut le dire, ça, on peut dire ça, si on veut essayer de comprendre la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Toutes les deux sont divines. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est l'amour qui passe devant. Et l'amour dépasse le point de vue de la foi et le point de vue d'espérance. Tandis que dans l'Ancien Testament, on voit très bien les deux colonnes de l'Ancien Testament, Abraham, Israël. Abraham, Jacob. Et ce sont les deux. Et l'amour est entre les deux dans l'immolation d'Isaac. Et alors, c'est l'espérance qui va se traduire dans la charité fraternelle. La charité fraternelle est pour nous source d'espérance, voyez. Un frère uni à son frère est comme une tour, c'est dit dans l'Écriture. C'est la charité fraternelle qui donne l'espérance. Dans le monde d'aujourd'hui, où on sent très bien que les grandes luttes sont du côté de l'espérance, quelle est la réponse qu'on doit donner? C'est la charité fraternelle. On a besoin de la charité fraternelle pour maintenir l'espérance. Si on quitte la charité fraternelle, on tombera dans le désespoir. Et ça, je crois. Je crois que c'est la vraie réponse qu'on donne au point de vue de l'espérance par rapport aux grandes luttes. C'est sûr que Jacob représente le mystère de l'espérance et le mystère de la charité fraternelle. On ne t'appellera plus du nom Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Jacob interrogea et dit, « Indique-moi ton nom, je te prie. » Il dit, « Pourquoi donc demandes-tu mon nom ?» Et là même, il le bénit. Il ne dit pas son nom. Ça prouve que c'est Dieu. Dieu ne se nommera qu'à Moïse. Dieu ne se nomme pas à Abraham. Dieu ne se nomme pas à Jacob. Parce que Dieu ne se nomme pas dans la foi ni dans l'espérance. Il ne se nomme pas. Il est présent. Ça, c'est très très beau. C'est très très beau ce passage. Les pères de l'Église ont toujours regardé attentivement ce passage parce qu'il y a là quelque chose qui est comme une préfiguration du grand mystère de l'agonie. Lutter face à Dieu, lutter avec Dieu et lutter avec les hommes. Jacob appela ce lieu du nom de Penuel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Alors là, il y a révision béatifique. Per modum transiuntis. Hein. J'ai vu Dieu face à face. Et j'ai eu la vie sauve. Alors, vous voyez, l'espérance. L'espérance victorieuse fait ce face à face. Une anticipation du face à face. Parce qu'évidemment, c'est symbolique. Il n'a pas vu Dieu face à face. Il l'a vu derrière le regard d'un homme. Et le soleil se levait sur lui lorsqu'il passa Penuel et il boitait de la honte. Quand on a vu Dieu face à face, on boite tout le reste de sa vie. Il boitait de la honte. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui boitent ont vu Dieu. Hein. Voilà pourquoi les fils d'Israël ne mangent pas jusqu'à ce jour le nerf sciatique qui est au creux de la hanche, parce qu'il avait touché le creux de la hanche de Jacob au nerf sciatique. C'est une petite explication, la petite glose marginale et merveilleuse. Il s'agit d'expliquer ça. curieux, il y a quelque chose de sacré là. C'est pas, faut pas prendre ça d'une façon trop moralisante en disant que c'est pour moraliser les choses. Non, il y a autre chose, Il faudrait étudier de près ça. Cette chose très curieuse, mystérieuse. C'est très mystérieux et c'est très important, je crois, pour entrer dans l'alliance particulière avec Jacob, Israël, et voir ça en parallèle avec Abraham. Jacob, levant les yeux, vit qu'Ésaü arrivait, ayant avec lui 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel, et les deux esclaves. Ayant vu Dieu, il voit son frère. Vous voyez bien. Il y a le face à face, et puis il voit son frère. C'est important. C'est après avoir vu Dieu qu'on est capable de voir son frère et de lui pardonner. On ne peut pas lui pardonner autrement. Il faut le face à face pour pardonner à son frère. Il faut que notre cœur s'agrandisse à la dimension de Dieu pour le pardon. On ne peut pas pardonner humainement, c'est impossible. On peut oublier mais pas pardonner. Tandis qu'ici, il s'agit vraiment de pardonner. Parce que tout est en acte. Vous voyez bien, Ésaü avance avec 400 hommes. C'est significatif, ça. S'il allait uniquement pour lui demander pardon, ou pour donner un baiser de paix, il n'aurait pas besoin de ça. Ça prouve que son irascible est resté bien éveillé. Et l'irascible d'Ésaü, on sait, il est fort. Hein, c'est l'homme sauvage, c'est l'homme roux. Rouge feu. On voit très très bien, c'est l'irascible d'Ésaü. C'est l'exemple de l'irascible d'Ésaü. Alors, on voit très bien, puisque Jacob, c'est beaucoup plus la douceur, il répartit les enfants. Il faut défendre les enfants devant la colère d'Ésaü, entre Léa, Rachel et les deux esclaves. C'est beau parce que ça montre, vous voyez, le regard paternel. On a bien affaire à un père. Du fait même qu'il a été en contact avec Dieu, il a cette responsabilité paternelle, le don de piété à l'égard de ses enfants. Et alors, ses enfants vont être mis à la garde de Léa, Rachel et les deux esclaves. Puisque de fait, il y a les quatre mères. Il mit en tête les esclaves et leurs enfants. Donc il y a une petite hiérarchie, un ordo caritatis assez particulier qui nous est montré ici. Hein, puisque si c'est le grand mystère de la charité fraternelle et de la réconciliation, c'est normal que nous découvrons ici un premier ordo caritatis, un ordre de la charité du père à l'égard de ses enfants. Et alors nous voyons cet ordre qui nous est montré, les esclaves qui sont en face du danger, parce que normalement les esclaves sont moins aimés que Léa et Rachel. C'est normal. Soyez au-delà du point de vue moral, hein, essayez de comprendre ce qu'il y a de, comme ordre de sagesse, hein, parce qu'au point de vue moral ce serait pas très très intéressant, pas très édifiant, mais au point de vue ordo caritatis, alors c'est très beau de voir ça. Il y a un ordre de charité qui nous est montré. Il mit en tête les esclaves et leurs enfants, Léa et ses enfants derrière, Rachel et Joseph derrière. Ah, la prunelle de ses yeux. Et Rachel, malgré tous les défauts de Rachel, c'est Rachel, il l'aime plus que toutes. Et Rachel, c'est Joseph. Lui-même passa devant eux et se prosterna 7 fois à terre avant d'aborder son frère. Alors vous voyez le courage, il passe devant. Hein. Il faut bien voir, c'est la paternité, la force de la paternité. Il donne sa vie pour ses enfants. Il donne sa vie pour Léa, Rachel et les deux esclaves. Ça, c'est très net. Il passe devant. Et pour bien montrer qu'il passe devant et qu'il veut la réconciliation, vous savez, il se prosterna 7 fois à terre. Cet acte d'adoration. Avant d'aborder son frère. Cet acte d'adoration, il a contemplé et l'adoration qui vient là pour le fortifier. Mais Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. La conversion du cœur de Jacob, cette conversion qui s'est faite durant la nuit par ce face-à-face, qui se fait dans la charité fraternelle et qui se fait dans l'adoration, va convertir le cœur de son frère. Il faut se convertir avant pour convertir l'autre. Et dans la charité fraternelle, c'est comme ça qu'on doit faire. On est responsable de son frère. Et on doit se convertir avant. Mais Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, il pleurait. Ésaü ne fait pas du tout la même chose, vous voyez. Il n'a pas passé sa nuit en prière, il n'a pas passé... Non, il est converti grâce à son frère. Jacob devient l'aîné, le responsable. C'est net. C'est Jacob qui est le responsable. Il a le droit d'aînesse. Il a un droit d'aînesse divin qui passe devant le droit d'aînesse humain. Et son droit d'aînesse divin se traduit de cette manière. Il est responsable du cœur de son frère. Et parce qu'il est responsable du cœur de son frère, sa conversion a une répercussion sur son frère. C'est très beau, ça. C'est, au point de vue de la charité fraternelle, c'est très très grand. Hein, parce que ça nous montre la manière dont Dieu se sert de Jacob, Israël, pour convertir Ésaü. Puis levant les yeux, il vit les femmes et les enfants. Il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Il ne les a pas vus. Pourquoi elle était entièrement captée par son frère ? Jacob a capté le cœur de son frère. Alors, et c'est à travers le regard d'amour qu'il a vis-à-vis de son frère qu'il va voir les femmes et les enfants. Ce sont, dit-il, les enfants dont Dieu a favorisé ton serviteur. C'est très beau, voyez là encore, le sens religieux de Jacob. Hein. Les enfants dont Dieu a favorisé ton serviteur. C'est les enfants de Dieu. C'est la parole, il faut mettre ça en parallèle avec la parole d'Ève. J'ai enfanté un fils de par Yahvé. C'est intéressant pour nous, au point de vue de la fécondité, hein, de bien comprendre que l'Ancien Testament, ce sens très très fort, la fécondité relève de Dieu. C'est Dieu qui est le maître de la fécondité. Nous n'avons plus du tout ce sens-là, sauf dans les familles profondément chrétiennes. Mais au fond, d'une façon générale, au point de vue politique, hein, plus du tout. Hein, plus du tout. Au moment de la loi de l'avortement, on n'a pas pensé à ça. Simone Veil n'a pas pensé à ça. N'est-ce pas ? Alors que si elle avait été un peu plus religieuse, elle aurait senti ça. Ce sont les enfants dont Dieu a favorisé ton serviteur. Alors s'avancèrent les esclaves, elles leurs enfants. Elles se prosternèrent. Léa aussi s'avança avec ses enfants. Ils se prosternèrent. Ensuite s'avancèrent Joseph et Rachel. Ils se prosternèrent. Alors le sens inverse de la procession. Hein. Vous voyez les deux sens de la procession. Parce qu'il y a deux processions différentes. Hein, et on voit très bien le sens différent par rapport à Dieu, par rapport aux hommes. Ésaü dit, que veux-tu faire de tout ce camp que j'ai rencontré ? C'est, dit Jacob, pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Il reste encore tremblant, hein ? Il ne sait pas encore exactement jusqu'où son frère est-il totalement converti. On voit très bien ça. C'est pour trouver grâce aux yeux de ton Seigneur, de mon Seigneur. Ésaü dit, j'ai amplement pour moi, mon frère. Garde ce qui est à toi. C'est là on voit le pardon jusqu'au bout. Hein. Le pardon doit s'incarner dans les biens. Hein. Et si Ésaü reconnaît pleinement son frère, il lui rend tout. Hein. Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu accepteras mon présent de ma main. Puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu. Vous voyez le rappel, hein. Il a vu la face de Dieu, et donc il peut le regarder, Ésaü. Il a vu la face d'Ésaü, et il met parallèlement avec Dieu. C'est très beau comme préfiguration du mystère de la charité fraternelle. La présence de Dieu permet la présence du frère courroucé qu'on doit pardonner. Pas de réconciliation sans contemplation. Voilà ce qu'on pourrait dire. Hein. L'Écriture nous enseigne ça. Pas de réconciliation avec son frère, sans un regard sur Dieu, donc sans un face-à-face. Et c'est dit doublement, hein, pour bien insister ça. Puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu, et tu m'as agréé. Accepte donc mon bienfait qui t'a été amené, car Dieu m'a favorisé. J'ai de tout. Il le pressa et Ésaü accepta. Celui-ci dit, partons et marchons, je marcherai devant toi. Jacob lui dit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que je dois penser aux brebis et aux vaches qui allaitent après les enfants. Hein, c'est bien, il y a un sentiment bien, bien. Là encore, il y a un certain ordre dans l'ordre de l'amour. Hein. Si on les presse un seul jour, tout le petit bétail mourra. Que mon Seigneur passe donc devant son Seigneur, passe donc devant son serviteur, et moi je cheminerai doucement au pas du convoi qui est devant moi et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur en Séir. C'est aussi très beau, hein. Le rythme d'Ésaü n'est pas celui de Jacob. Ça se voit tout de suite. Et la douceur de Jacob se retrouve là. Vous voyez, ça c'est très net. Hein. Jacob, c'est la douceur qu'on vous a montré. Et la douceur qui se traduit même là. Il sait, il connaît son frère. Son frère ne fait pas attention. Il a converti son cœur, c'est déjà quelque chose. Mais le reste, hein, faut du temps. Alors il connaît. Entre frères, on se connaît. Ésaü dit, permets du moins que je laisse avec toi quelques-uns des gens qui sont avec moi. Ésaü reconnaît. Il n'est pas à ce rythme-là. Ça l'agacerait beaucoup trop. Alors, simplement quelques-uns. C'est très beau. Hein. Le dialogue entre frères, il n'y a pas beaucoup de dialogue entre frères. Hein. C'est le premier dialogue entre frères ici. Un dialogue fraternel. Hein. C'est très différent le dialogue du père et du fils. C'est le dialogue fraternel. C'est la première fois où on voit la charité fraternelle qui s'incarne vraiment. C'est pour ça que c'est un lieu très important. Et c'est, ce qui est très beau, c'est que c'est lié à l'espérance. Parce que c'est l'Ancien Testament. La charité fraternelle dans le Nouveau Testament sera liée au cœur de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est toute la différence. Tandis qu'ici, c'est lié à l'espérance. L'exercice de la charité fraternelle, c'est lié à l'espérance et c'est pour justement donner cette force. Permets du moins que je laisse avec toi quelques-uns des gens qui sont avec moi. Vous voyez, si on était dans la Nouvelle Alliance, le cœur d'Ésaü serait complètement converti à Jacob et il dirait, mais pas du tout, je vais à ton rythme. Pas du tout, il répond pas comme ça. Mais simplement quelques-uns, permets, hein, que je trouve seulement grâce à mon... Donc, permets du moins que je laisse avec toi quelques-uns des gens qui sont avec moi. À quoi bon, dit Jacob, que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü reprit ce jour-là son chemin vers Séir. Quant à Jacob, il partit pour Soukhot. Il s'y bâtit une maison et fit des huttes pour son bétail. Vous voyez, il n'a pas tellement envie de retrouver tout de suite son frère. Aussi, il a très quelque chose de très curieux. Ah, c'est bien une charité fraternelle qui n'est pas encore entièrement conquérante. C'est déjà très beau le pardon. Mais allons chacun selon notre rythme. Vous savez, entre Abraham et Lot, hein, si tu vas à droite, je vais à gauche. C'est vrai, quand la charité fraternelle n'est pas parfaite, il y a ce respect qu'on doit avoir les uns par rapport aux autres. On n'a pas le même rythme, on ne pédale pas du même pas. La meilleure façon de s'entendre, c'est de reconnaître cela. Autrement, on fait des choses fausses. Quant à Jacob, il partit pour Soukhot, il s'y bâtit une maison et fit des huttes pour son bétail. Voilà pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Soukhot. Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, qui est au pays de Canaan. Quand il revint de Padam Aram, il y campa en face de la ville. Il acheta au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 késitas, la parcelle de champ où il avait tendu sa tente. Il dressa un autel qu'il appela El Elohe Israël. Alors, ceci, c'est aussi très important. Vous voyez la différence avec Abraham. Abraham s'est fixé sur le sol qu'à la mort de Sarah. Ici, il achète tout de suite une parcelle du champ. Donc, on voit la différence. Et il achète cette parcelle pour dresser un autel. Elle, Elohe, Israël, c'est-à-dire donc elle, le Dieu des Sémites, et le Dieu d'Israël. Donc c'est le premier autel, si vous voulez, qui est adressé au Dieu d'Israël. À ce point de vue-là, c'est très important. À ce point de vue-là, c'est très important. Et pour cela, vous voyez, il achète ce lieu qui devient un lieu saint. Et c'est le premier retour, hein, au pays de Canaan. Dans la petitesse, dans la pauvreté, et tout de suite l'attitude religieuse. Parcelle de champ où il avait tendu sa tente et il y dressa un autel. Donc, on peut dire qu'à partir de là, on est en présence, si vous voulez, après Abraham, il y a quand même deux lieux qui sont consacrés, le lieu du sanctuaire de la mort de Sarah, et ce lieu par rapport à la charité fraternelle. Alors nous allons continuer, chapitre 34, petite histoire importante, le drame à l'intérieur des enfants et de la famille, famille nombreuse, où il y a le petit drame de Dinah. On va voir ce que ça implique. Là encore, il faut toujours comprendre ce point de vue-là comme un point de vue théologal. Dinah, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortie pour regarder les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le Hivite, prince du pays, la vit. Il l'enleva, coucha avec elle et lui fit violence. Enfin, les mœurs des gens sont toujours les mêmes là-dessus. On voit très bien ça. C'est révélé pour la fin. Non ? Puis son âme s'attacha à Dinah, la fille de Jacob. Il aima la jeune fille et parla au cœur de la jeune fille. Il a été révélé, enfin, essayez de comprendre, hein, c'est quand même le grand livre de l'amour, l'écriture, hein. Des amours légitimes, des amours moins légitimes, des amours purs et des amours moins purs. Hein. Tout ça, tout amour vient de Dieu. Alors, c'est pas oublié, il ne faut pas oublier le coup de foudre de Rachel et de Jacob et de Rachel. Ici, la fille de Jacob, Dinah. Mais fille non pas de Rachel, mais de Léa. S'est laissé prendre. Sichem dit à Hamor, son père, « Prends-moi cet enfant pour femme. » Jacob avait appris qu'il avait souillé Dinah, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob se tut jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Lorsque de retour des champs, les fils de Jacob apprirent la chose, ces hommes furent affligés. Ils entrèrent en grande colère. devant l'insanité que Sichem avait commise en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, chose qui ne se fait pas. Hamor leur parla en ces termes : Sichem, mon fils, à la méprise de votre fille, je vous en prie, donnez-la-moi pour femme. Alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Ça va très bien, contrat mutuel. Hein. Vous habiterez avec nous et le pays sera devant vous. Vous pourrez y habiter, le parcourir, y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux. Et je donnerai ce que vous me direz. Si haut que vous m'en fixiez le mohar et le don, je donnerai ce que vous me direz, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Les fils de Jacob répondirent à Sichem et à Hamor, son père. Ils parlèrent avec ruse, parce qu'il avait souillé Dina, leur sœur. Ils leur dirent, « Nous ne pouvons faire cette chose-là, donner notre sœur à un homme au prépuce. Ce serait pour nous une opprobre. » Oui, alors, c'est, je crois, pour montrer la première fois la sélection du peuple d'Israël, hein, consacré à Dieu. Il ne peut pas s'allier à l'étranger, au goyim. À l'homme au prépuce, hein, c'est très net. On ne peut pas s'allier à ça. C'est pour montrer. C'est cet aspect, au-delà du point de vue moral, il y a quelque chose qui nous est montré. C'est pour ça que, n'oublions pas, il y a l'alliance avec Israël. Jacob, c'est Israël. Donc, tout ce qui appartient à Jacob et ses filles sont consacrés à Dieu. Elles ne sont plus comme les autres peuples. Et alors on voit la tentation. La tentation, c'est tout simplement de se fondre avec les autres peuples. Ce serait tellement plus facile. C'est merveilleux d'avoir une fille comme Dina. Elle a charmé le cœur de ce Hivit, fils de Hamor. Elle a charmé son cœur. Bon, à partir de là, tout se fait. Une alliance familiale, c'est très bien. Ils se rencontreront et puis on y est. Ah, pas du tout. Il y a sur le peuple d'Israël, sur la descendance de Jacob, il y a une volonté de Dieu qui dépasse, qui va plus loin. Je crois que c'est ça qui nous est montré ici. Vous voyez, c'est cette marque de Dieu sur le peuple d'Israël, cette volonté de Dieu sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'est pas n'importe quel peuple. Il est un peuple réservé à Dieu. Il est le premier-né de Dieu. Il est Israël. Et Israël à partir de là, à partir de Jacob, qui est justement relié à Dieu à travers la charité fraternelle, hein, c'est à travers ce combat. Bon. Les fils de Jacob répondirent à Sichem et à Hamor son père. Ils parlèrent avec ruse parce qu'il avait souillé Dina leur sœur. Ils leur dirent, nous ne pouvons faire cette chose-là, donner notre sœur à un homme au prépuce, ce serait pour nous un opprobre. À cette seule condition, nous vous donnerions notre consentement, c'est que vous deveniez comme nous, en faisant circoncire tous vos mâles. Là, c'est très important. Ça veut dire le signe de la consécration à Dieu. Alors, vous voyez, c'est très important parce que ça montre que le peuple d'Israël n'est pas premièrement une race. C'est pas le point de vue du sang. Non, non, c'est autre chose. C'est le point de vue de la foi. C'est ça qui fait Israël. Ce qu'on oublie trop, hein, aujourd'hui. On oublie beaucoup trop. C'est la foi qui fait Israël. C'est la foi dans l'alliance avec Dieu. Et la foi dans l'alliance avec Dieu est marquée par un signe dans la chair. C'est la circoncision. Et la circoncision qui s'est faite avec Abraham. Dieu est un Dieu de sang. qui implique l'incarnation. C'est le premier marque de l'incarnation, l'alliance qui doit s'incarner jusque dans la chair et le sang. Mais voyez, c'est second. C'est très très beau, et c'est dit explicitement ici, hein, à cette seule condition, ben, si vous vous convertissez, ben, ce qu'on dit aujourd'hui, ah, très très bien, oh, très bien, mais il faut vous convertir. Et la conversion, elle implique justement ce signe. À cette seule condition, nous vous donnerons notre consentement. C'est que vous deveniez comme nous en faisant circoncire tous vos mâles. Alors, nous vous donnerions nos filles, nous prendrions les vôtres pour nous, nous habiterions avec vous et nous deviendrions un seul peuple. C'est le peuple d'Israël, c'est Israël qui va assumer l'autre. Oui. Au plan religieux, au plan de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est très très important, parce que c'est le lieu, je crois, principal où on voit cela. Après la charité fraternelle, voyez, l'exigence de la charité fraternelle qui ne peut s'étendre qu'à ceux qui sont consacrés à Dieu. Et c'est la consécration à Dieu qui permet alors qu'on soit liés les uns aux autres. Donc le sang peut se mêler s'il y a la circoncision. S'il n'y a pas la circoncision, impossible. Parce qu'il y a une consécration à Dieu. Et nous deviendrions un seul peuple. Mais si vous ne nous écoutez pas pour la circoncision, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. C'est net. Pas de compromis. Les paroles plurent à Hamor et à Sichem, fils de Hamor. On est loin d'un éclectisme œcuménique. N'est-ce pas? On voit, c'est net, hein, c'est précis. Il y a une condition, la seule condition, c'est celle-là. Après, ça va très bien. Ayons la même foi, c'est ça que ça veut dire. Ayons la même foi. Ayons le même Dieu. Comprenons que nous sommes liés à Dieu. Alors, on peut. Mais si on n'est pas lié au même Dieu, non. Leurs paroles plurent à Hamor et à Sichem, fils de Hamor. Et le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, amoureux qu'il était de la fille de Jacob. Ça, c'est merveilleux. L'amour permet tout. Hein. Et l'amour fait tout. Alors, grâce à cet amour qu'il a pour la fille de Jacob, il va accepter le même Dieu. C'est beau aussi ça pour nous. Hein. De temps en temps, on se dit, mais c'est pas très pur, il a accepté cette conversion en fonction de l'amour. Et oui, c'est dit dans l'Écriture. Hein. L'amour humain peut conduire à la conversion du cœur et à la transformation du cœur pour la même foi. Dieu se sert de ce chemin, de cette voie. Et le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, amoureux qu'il était de la fille de Jacob. Or, il était le plus considéré de toute sa famille. Le chef, une fois qu'il fait ça, alors le reste, ça suit. Ah bon, et Sichem, son fils, allèrent à la porte de leur ville, parlèrent aux hommes de leur ville en ces termes. Ces hommes sont sincères, qu'ils habitent avec nous dans le pays et qu'ils le parcourent. Et voici que le pays est vaste en tous sens devant eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes. Nous leur donnerons nos filles. Seulement, ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour devenir un seul peuple qu'à cette condition, que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils le sont eux-mêmes. Leurs troupeaux, ce qu'ils possèdent, tout leur bétail, cela ne sera-t-il pas à nous? Donnons-leur cependant notre consentement, ils habiteront avec nous. Et qu'il vient le témoin, ça c'est... Il propage la parole de Jacob. Tous ceux qui sortaient de la porte de sa ville, tous ceux qui sortaient de la porte de sa ville écoutèrent, Hamor et Sichem, son fils. Et tous les mâles furent circoncis, tous ceux qui sortent par la porte de la ville. Or, le troisième jour, ça va être le drame, hein, Toujours, je commence à voir trop bien, c'est trop magnifique. Conversion extraordinaire, merveilleuse. Les prémices, hein, les prémices de la conversion, de cette charité fraternelle, c'est la conquête de la charité fraternelle, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Or, le troisième jour, alors qu'ils étaient souffrants, deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun son glaive, marchèrent sur la ville en toute sécurité et tuèrent tous les mâles. Voilà la ruse, hein ? Ça, on ne sait pas très bien ce que Dieu fait de tout ça. C'est plus difficile à comprendre. Hein ? C'est pour ça qu'il parle avec ruse, voyez bien. Ils tuèrent avec le tranchant du glaive Hamor et Sichem, son fils, enlevèrent Dina de la maison de Sichem et partirent. Ça, c'est des choses qui sont très difficiles à comprendre. Hein. Jusque-là, on voit. Et c'est avec ruse qu'ils ont dit ça. Donc, conversion particulière. Hein. Les fils de Jacob passèrent sur les cadavres et pillèrent la ville, parce qu'on avait souillé leurs sœurs. Ils prirent leurs petits, leurs gros bétail, leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Toute la richesse, tous les enfants et leurs femmes, ils les emmenèrent captifs, ils pillèrent tout ce qu'il y avait dans la maison. Jacob dit à Siméon et Lévi, vous m'avez porté malheur en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Périsévites. Moi, je ne suis qu'un petit nombre d'hommes. Ils se réuniront contre moi, me battront, et je serai anéanti, moi et ma maison. Et ils dirent, devait-on traiter notre sœur comme une prostituée ? Mais comme c'est pas commode à comprendre, hein, dans la lumière de la sagesse de Dieu, parce qu'il faut comprendre ça dans la sagesse de la lumière de Dieu. Jacob n'a pas l'air d'être d'accord, alors qu'il était d'accord avec ce qu'il avait dit précédemment. L'amour des frères pour leurs sœurs va dépasser le point de vue religieux. C'est une vengeance ce qu'ils font. C'est très curieux. On ne dit pas qu'il y a bénédiction de Dieu. On dit qu'au contraire, Jacob dit à Siméon et Lévi, hein, il ne leur dit pas, il ne les félicite pas. Vous m'avez porté malheur en me rendant odieux. Alors regarde les résultats. Évidemment, on pourrait dire, c'est très humain. Oui, c'est très vrai, la constatation de Jacob, c'est très humain. C'est très prudent. C'est la prudence de Jacob à l'égard de la fougue de Siméon et de Lévi. Siméon et Lévi ont une espèce de fougue extraordinaire, venger leur sœur. On ne peut pas abîmer leur sœur de cette manière-là. Donc ils se vengent. Au-delà du contrat religieux. Quand même très très étonnant cela. Devait-on traiter notre sœur comme une prostituée ? Dieu dit à Jacob, debout, monte à Bethel et habite là-bas. Il faut quitter ce lieu. C'est Dieu qui donne la solution, si vous voulez. On est devant un Dieu, on est devant, c'est très curieux, on est devant. Vous voyez, quelque chose qui... Le point de vue religieux, le contrat religieux, qui je crois est très important, parce qu'il fait comprendre que la diversité de races est dépassée par l'alliance avec Dieu. C'est le premier caractère de l'université de l'Église. Ça existe en Israël, ça existe dans l'ancienne alliance. Il y a quelque chose d'universel dans l'ancienne alliance. Il ne faut pas l'oublier. C'est tombé progressivement dans un point de vue racial. Mais c'est faux au point de vue de l'Écriture. Au point de vue de l'Écriture, Israël, c'est la foi. Ce n'est pas premièrement une question de race. C'est la foi. Je me souviendrai toute ma vie, cette parole que vous avez dite, cette petite Israélite que je connaissais, qui était après la... C'était sitôt la guerre, donc au moment où... tout prenait une acuité très grande. À ce moment-là, c'était son père était rabbin. Et elle était devenue chrétienne. Et alors, elle ne savait pas trop comment elle dirait à son père, après toutes les difficultés de la guerre, son père avait échappé, failli être pris, lui dire qu'elle était chrétienne. Alors elle s'est jetée dans ses bras, c'est elle-même qui m'a raconté ça, elle s'est jetée dans ses bras en disant à son père, « Merci d'être ce que tu es. Je suis pleinement ta fille. » Alors son père a dit, « Oui, je suis pleinement ta fille, je suis chrétienne. » Et son père s'est mis à pleurer, sans du tout la rejeter. Et vous voyez, la continuité de la foi. Israël, la vie chrétienne. Et c'est vrai, si je regarde ce passage, c'est pour ça que ce passage, pour moi, est très important. Parce qu'il nous fait comprendre, quelque chose de très radical au point de vue de Dieu, que le dépassement de la foi par rapport à ce que représente la race, à ce que représente une tribu, à ce que représente une famille, la foi prime, quand même très importante. La foi dépasse, et c'est vrai tout de suite dès que je suis en présence d'Israël. Oui. C'est le propre d'Israël qui va faire ce dépassement. Et comme c'est difficile à comprendre, la voix du sang paraît plus forte. Et on voit Siméon et Lévi ne pas accepter ça. Et s'en servir pour venger leur sœur. Et ça, c'est la voix du sang. Et je crois que ça, il y a quelque chose là de très très grand. De très grand et en même temps d'un peu terrible, si vous voulez, parce qu'on voit bien les deux aspects. On voit bien l'aspect de la foi concrétisé dans le signe d'appartenance à Dieu, et en même temps combien la voix du sang est profonde et forte, comme c'est difficile d'être victorieux de cet appel profond de ce que représente venger sa sœur. Venger sa sœur de ce que représente le manque de respect qu'on a eu vis-à-vis d'elle. Avec tout ce que ça peut regarder au point de vue de dignité morale, il y a la foi qui est quelque chose de plus grand. Et on voit bien, Jacob n'est pas content. Il ne peut pas désapprouver, parce qu'il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de grand de la part de Siméon et Lévi. Mais il y a en même temps quelque chose, peut-être, n'a pas été suffisamment confiant dans la foi. Ça reste mystérieux. Hein. Faut essayer de réfléchir ça, non pas à un point de vue moral, parce qu'au point de vue moral, on pourrait dire, oh, il y a le compromis. Oui, on pourrait très bien interpréter ça. Oh, il y a le compromis conventionnel, tout simplement, au point de vue de la foi, et puis c'est tout. Alors on va s'arranger. Et puis alors, au contraire, Siméon et Lévi, intraitables, qui, au point de vue moral, non. Je peux aussi la traduire autrement. Dieu dit à Jacob, « Debout, monte à Bethel. » Alors Dieu se sert toujours même de certaines choses qui ne sont pas peut-être entièrement selon ce qu'il désire. Dieu s'en sert, il pardonne, monte à Bethel. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut monter à Bethel, il faut aller plus loin.